Bonjour, mon invité aujourd'hui est Rokhea Diallo. Vous venez de publier en livre de poche votre dernier livre Ne reste pas à ta place, mais c'est pas l'unique raison pour laquelle vous invitez. Il y a de multiples raisons pour lesquelles il est utile de vous inviter. Est-ce que, pour commencer, que pensez-vous de l'adage selon lequel nul n'est prophète dans son pays? Est-ce que vous pensez qu'il s'applique à vous?
Bah, disons que je le ressens d'une certaine manière et je l'ai particulièrement ressenti quand j'ai été recrutée l'année dernière au Washington Post, donc qui est le grand journal de référence américain et une des plus grandes références du journalisme mondial. Donc j'ai été recrutée à la rubrique Global Opinions. J'étais la première française à écrire dans cette rubrique de manière récurrente et officielle dans le cadre d'un contrat. Et c'est vrai que
Parce que c'est quand même
c'était...
c'est serré. Le Washington Post, c'est le journal qui a lancé le Watergate, c'est quand même la
Absolument.
référence.
Voilà,
Et
c'est...
Pentagon Papers, c'est quand même la référence journalistique américaine.
Tout à fait. Ils ont fait en plus un communiqué pour annoncer ma venue, pour expliquer pour quelles raisons ils souhaitaient que j'écrive régulièrement sur la France, hein, parce qu'en plus j'ai été recrutée pour écrire sur mon pays, ce qui n'est... Et c'est vrai qu'en presse écrite française, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir des contributions contractuelles, c'est-à-dire à part pour des organes de presse évidemment comme Slate, comme Regard, etc. Mais dans la presse nationale, il m'est jamais arrivé en fait d'avoir une chronique en 12 ans de journalisme, donc c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Et à côté de ça, heureusement, j'ai l'occasion de contribuer régulièrement dans le cadre d'interventions télévisées, donc sur LCI, sur BFM, sur C8 ou encore à la radio sur RTL où je suis depuis 2009. Donc c'est vrai qu'il y a en tout cas... Ce que je remarque et ce que je constate, c'est qu'il y a un décalage d'appréciation de mon travail entre la France où on perçoit beaucoup mon travail comme un travail polémique. Et d'autres pays, hein, on parle beaucoup des États-Unis, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention à l'université de Kyoto, j'interviens à Montréal, à Abidjan, alors c'est beaucoup par Zoom en ce moment, puisqu'on ne peut pas se déplacer, mais la semaine prochaine, pour l'université de Reading en Grande-Bretagne, je fais beaucoup d'interventions en Allemagne, et je constate qu'en fait, les gens à l'étranger portent beaucoup d'intérêt pour mon travail sur le sexisme et sur le racisme en France, alors qu'ici, beaucoup de personnes contestent mon travail, et contestent mon travail comme étant un travail, et ne le critique que comme si c'était uniquement de la polémique et pas une contribution en fait aux
Donc le
idées.
paradoxe, c'est que pour les institutions étrangères, la fondation Obama
Tout
aussi,
à fait.
qui à mon avis n'est pas vraiment le quartier général de
Non,
l'islamo-gauchisme
c'est
dans le
vraiment
monde, enfin
pas.
je veux peut-être me tromper, mais donc la fondation Obama vous a aussi invité, on pourrait multiplier les
Ouais, j'étais
exemples,
la
j'en ai
seule
cité
française d'ailleurs invitée là-bas aussi.
quelques-uns,
Ouais.
et donc là on estime dans ces institutions du Washington Post à l'université de Kyoto, qui est là aussi une des plus prestigieuses au Japon, là aussi je pense que l'islamisme débordant n'est pas vraiment la référence, vous êtes invité pour le sérieux et la crédibilité scientifique de votre travail qui est reconnu, alors qu'en France, les institutions vous considèrent comme une polémiste.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions en France qui considèrent que mon travail ne relève que de la polémique et pas de la contribution aux idées, parce que je pense que voilà, ce sont des idées qui méritent le débat et qui pour moi proposent une analyse de la France, des dynamiques de pouvoir, des dynamiques de relations entre différents groupes dominants et dominés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt en fait, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'écrits finalement ou de productions audiovisuelles comme mes documentaires, comme les articles que je peux écrire bah, plutôt en anglais qui circulent à l'extérieur des frontières de la France. Et donc, il y a un intérêt très très important qui est porté à ces contenus et une appréciation vraiment différente. C'est-à-dire qu'on m'invite pour parler à des étudiants, pour faire des exposés sur la France, sur la question de la minorité au sens constitutionnel français. Là où en France, bah, dans les universités françaises, c'est rare que j'intervienne dans les
Et
institutions.
si vous êtes invité, il va y avoir des protestations pour vous les invités.
Souvent, les enseignants qui m'invitent doivent faire face à des protestations et résister, ou parfois inviter des personnes contradictoires pour pouvoir garantir ma venue. Donc, où je pense, par exemple, l'année dernière, j'étais invitée à Toulouse par le réseau bibliothèque, et en fait, la mairie de Toulouse, la municipalité de Toulouse, je ne sais pas exactement qui, a agi pour que je ne sois pas invitée. Donc, mon invitation a été annulée, à tel point qu'il y a eu une manifestation donc, dans la rue des bibliothécaires, des personnes des médiathèques de Toulouse pour protester contre la censure, en fait, qui était opérée par la
Vous êtes
municipalité.
dangereuse à ce moment-là?
Bah, je ne pense pas.
D'accord.
Je ne pense pas, mais c'est intéressant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de cancel culture, mais je suis une des rares personnes dont la parole est annulée par des institutions. Il y a eu la mairie du 20e, il y a eu le conseil du numérique, où j'avais été nommée par décret, et finalement, le gouvernement lui-même est intervenu pour que ma nomination soit annulée. Et là, ce sont à chaque fois des institutions qui m'empêchent de prendre la
Il faut
parole.
rappeler donc que c'était Mounir Majoubi qui était le
Tout à
secrétaire
fait.
d'État qui a cédé à la pression.
Oui.
Peut-être c'est la seule chose dont on se rappellera d'ailleurs de son mandat de secrétaire d'État, et que tous les autres membres C'est un conseil consultatif d'une vingtaine de personnes.
Tout à fait.
Donc, vous étiez parmi 20 personnes pour un conseil consultatif. Mm-hmm. Et donc, c'est dire le danger, la menace pressante, l'enjeu fondamental. Et en tous les cas aussi, il faut dire, et leur rendre honneur, hommage, c'est que les autres membres ont du coup démissionné.
En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été nommés par un décret signé par Édouard Philippe à l'époque. Mounir Majoubi s'en est réjoui publiquement. Une pression a été exercée d'abord sur les réseaux, et je sais qu'il y a des appels qui ont été passés aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon pour pousser à mon départ. Valérie Boyer, députée, aussi a adressé un courrier au Premier ministre. Et finalement, en 48 heures, Mounir Majoubi a écrit en disant qu'il avait demandé à la présidente de renouveler son organisme et l'organisation du Conseil parce que pour éviter pour la sérénité des débats. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble du Conseil du numérique, en fait, a démissionné. D'abord, la présidente a démissionné. Et ça, vraiment, je lui en serai toujours reconnaissante. Et ensuite, l'ensemble du conseil, en la suivant, a démissionné pour marquer sa solidarité vis-à-vis d'elle.
Le bon côté, c'est qu'il y a au moins encore quelques réactions de dignité.
Absolument.
Par rapport à cela. Mais qu'on le constate avec ce que vous dites, c'est que effectivement on parle toujours de la cancel culture, que on ne peut pas jouer cette pièce d'Eschyle, et il y a 2-3 exemples sur 5 ans, mm-hmm. de fait, effectivement, de militants antiracistes qui ont peuvent avoir des réactions excessives et demander d'annuler les choses, mais le nombre de demandes d'annulation à l'encontre de mm-hmm. militants antiracistes qui ont pourtant un background scientifique comme vous est en fait beaucoup plus nombreux.
Oui, et en plus, c'est intéressant l'exemple que vous preniez de la pièce d'Eschyle, parce que effectivement, il y a des gens qui se sont mobilisés le jour de sa représentation, et ce jour-là n'a pas eu lieu. Mais il y a eu une mobilisation en faveur de la pièce, et Franck Riester, qui était ministre de la Culture, a fait un communiqué pour soutenir la pièce. Donc la pièce était soutenue par l'institution, et finalement, elle s'est jouée, il me semble, en plus, dans un amphithéâtre très prestigieux à la Sorbonne, donc elle n'a pas été annulée. En revanche, c'est vrai que pour des personnes comme moi, et je ne suis pas la seule, des annulations de venues...
On parle aussi un petit peu, oui.
Voilà, mmh. par des institutions. Là, ce sont des personnes qui sont censées nous représenter, puisque nous sommes citoyens de ce pays. Ce sont elles, ces institutions, qui interviennent pour nous empêcher de prendre la parole. Et c'est vrai que quand on voit ces personnes se plaindre de la cancel culture, alors qu'en réalité, elles ont les institutions de leur côté, je trouve qu'il y a un renversement, en fait, du rapport de force, parce que moi, je n'ai jamais été soutenue par des institutions lorsque, par exemple, la maire du 20e, l'ancienne maire du 20e, qui est maintenant il me semble, est au gouvernement, Frédéric Calandra, a non seulement annulé ma venue dans une mairie du 20e parce qu'elle n'aimait pas mes idées, mais en plus a porté plainte contre moi parce que j'ai fait un post Facebook pour dénoncer ses agissements. Et donc elle a porté plainte contre moi, j'ai eu droit à un procès qui a été fait sur fonds publics et j'ai été relaxée parce qu'il n'y avait pas de fondement.
Et par contre, vous, vos frais d'avocat, c'était pour
je
vos frais.
Paye. Voilà, ouais. c'est de ma poche. Mmh. Et là, effectivement, voilà, c'est du temps que je passe. Mmh. Le procès a duré... je ne sais pas, entre 13h et 21h, toute une journée pour expliquer à quel point ma présence dans l'espace public était problématique. Et finalement, j'étais relaxée parce que c'est ma liberté d'expression. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a une maire d'arrondissement qui a porté plainte contre une journaliste pour un post Facebook? Ça, c'est vraiment une atteinte à mon travail, à ma liberté d'expression.
Comme quand c'est culture et sur fonds publics.
Sur fonds publics. Sur fonds publics. Elle a même fait voter un budget.
Nos impôts, quoi.
Absolument. D'accord. Elle a fait voter un budget spécifique pour pouvoir couvrir ses frais d'avocat dans cette affaire.
Ce qui est frappant dans ce que vous dites, parce que moi, sur les questions stratégiques, quand je travaille, en fait, tout ce qui vient des États-Unis est plutôt bien vu. Mm-hmm. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même un courant atlantiste qui est très fort. Et là, tout d'un coup, ce qui vient des États-Unis est censé être négatif. Et tout ce qui s'inspire, le Black Lives Matter, par exemple, tous les mouvements antiraciste, on critique une sorte d'importation de concepts américains en France. On est un peu à front renversé, là aussi.
Bah c'est intéressant, parce qu'effectivement, on considère généralement que ce qui vient des États-Unis est assez prestigieux, y compris culturellement. On est quand même, ça fait très très longtemps qu'on est surexposé à la culture américaine, notamment à travers la musique et à travers le cinéma et les séries. Donc voilà, le cinéma hollywoodien nous a largement, c'est largement déversé, en fait, sur
nos territoires. Ça fait rêver tout le monde, c'est quand même notre culture, et là.
Ça fait rêver, et effectivement, le fait que je puisse avoir des liens avec les États-Unis est considéré comme une forme de trahison. Je pense qu'il y a une forme de biais racial qui fait qu'on me prête systématiquement, enfin, on doute systématiquement de mon allégeance à la France. C'est-à-dire que dès que j'exprime des idées, on va soupçonner ces idées d'être sous influence étrangère. Par exemple, j'ai fait ce programme des visiteurs internationaux qui a été créé par l'ambassade américaine, enfin par le département d'État américain.
Ça fait plaisir, mais tous les politiques français l'ont fait.
Il a été...
Édouard Philippe, enfin tous
Nicolas
les politiques.
Nicolas Sarkozy.
Moi aussi, d'ailleurs, il y a longtemps.
Voilà, c'est ça, il a été créé dans les années 40. Ouais. De nombreuses personnes sont parties avant que je parte, moi, en 2010. Ça fait déjà plus de 50 ans. Et pourtant, c'est ma présence dans plus de 60 ans. Même ma présence dans ce programme-là qui est question questionner, alors que Najat Vallaud-Belkacem, Tony Blair, Margaret Thatcher, Abdullah Gül, enfin plein de gens dans le monde ont fait ce programme qui existe depuis très très longtemps.
Sinon, c'est un programme d'invitation, donc de la, c'est la diplomatie publique
tout à
américaine.
Fait, tout à fait.
Les Américains invitent pour une durée assez longue, qui varie selon les époques, quelqu'un à découvrir les États-Unis. Mais tous les pays font ça d'ailleurs, parce
absolument.
Que la France a copié.
Des alliances françaises
partout.
On
appelle ça les programmes d'avenir, les personnalités d'avenir. Et donc la France invite aussi. Et moi, j'étais sur ce programme, j'étais en Corée, au Japon, dans la plupart des pays. Donc c'est.
Bah c'est, bon.
C'est vous, ça vous fait réagir différemment.
Bah, quand, bon. Pour ce qui me concerne, tout le monde parle de ce programme s'agissant de moi et d'autres personnes, comme par hasard des personnes qui sont issues de l'immigration postcoloniale ou qui sont issues des banlieues populaires. Et toujours avec cette idée que selon laquelle nous serions manipulés. Comme si en fait nous avions une intelligence si faible que nous ne pourrions pas faire la part des choses entre la diplomatie et nos idées et que nécessairement nos idées seraient insufflées par l'extérieur. Alors je pense qu'il y a un problème d'inculture. Par exemple, on parle beaucoup de l'influence des mouvements afro-américains sur ce qui se passe en France, mais déjà les gens ne semblent pas savoir que par exemple Frantz Fanon, qui est français, a influencé les mouvements noirs américains dans les années 60, alors qu'il était très peu connu en France. Son livre, notamment Les damnés de la Terre, a été très très influent, non seulement aux États-Unis et dans le monde, et aujourd'hui encore, c'est un des intellectuels français les plus lus à l'étranger. Et ça, on le sait peu. Et de la même manière que sur tout ce qui est relatif aux cultural studies, et en particulier aux études de genre, Simone de Beauvoir a été quelqu'un de très très influent, notamment sur les mouvements féministes internationaux. Donc ces mouvements-là, les mouvements d'études culturelles, en fait, ont été beaucoup influencés par des penseurs français et françaises. Et je pense que le fait de croire que lorsqu'on parle de questions raciales, on ne peut que s'inspirer des États-Unis, c'est une erreur. D'une part, parce que c'est une erreur géographique, parce qu'en réalité, la France est américaine. Elle est américaine en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et dans plein de territoires, en fait, qui sont des territoires qui ont été forgés par l'esclavage et par la colonisation. Donc, on a une histoire américaine, et on a une histoire globale. Donc, on n'a pas besoin d'être influencé par les États-Unis pour parler de l'influence de théories raciales, des théories esclavagistes sur la France. Et puis, en 1983, lorsque Toumi Djaïdja a initié la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a malheureusement été rebaptisée Marche des Beurs par les médias, eh bien, Toumi Djaïdja, à l'époque, disait, c'était 20 ans après la marche sur Washington de Martin Luther King, il disait déjà qu'il était influencé par les Afro-Américains. Mmh. Les Afro-Américains ont influencé le monde parce que leur lutte d'émancipation est un modèle pour tous les peuples opprimés. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Le rap français, bien sûr, le rap, ça vient du Bronx. Et la France est aujourd'hui la deuxième nation du rap au monde.
Mais donc, quand il y a quelqu'un qui va devenir ministre, on dit « Ah, il a été remarqué par les États-Unis, on l'a invité
absolument.
À ce programme. » Et vous, il y a un soupçon presque de trahison, en tous les cas, de non-fidélité à votre pays.
Bah, par exemple, Emmanuel Macron a suivi un programme de la French American Foundation qui s'appelle Young Leaders. Tout le monde pense que j'ai suivi ce programme, mais je n'ai jamais été sélectionnée pour ce programme. Il l'a suivi, il est devenu président. On considère qu'il a été identifié parce que c'était une personne de talent. Pendant sa campagne, il a reçu un appel de Barack Obama, le soutenant, entre les deux tours, on a considéré que c'était effectivement la marque de ses qualités. Lorsque moi, je suis la seule Française sur 500 personnes invitées au lancement à l'inauguration de la Fondation Obama à Chicago, ça devrait faire l'objet d'une fierté nationale. Je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on considère que les valeurs que je défends sont suffisamment, intéressantes, pour que je puisse être une des rares. La presse n'était pas admise à cet événement, et je pense que même les médias auraient dû s'intéresser à ce que j'ai vu, ce que j'y ai vu, ce à quoi j'ai assisté. J'ai assisté à des tables rondes ou à des petits panels où on était.
Oui, on aurait pu vous demander des reportages, raconter un peu tout ça, puisque vous avez un témoignage qui était unique
J'étais
pour les Français.
J'étais assise à côté de Barack Obama dans des salles où on était 20. Sur les questions d'émancipation. Il y avait des gens du monde entier, des femmes saoudiennes qui luttaient contre le patriarcat, etc. Et au lieu de me poser des questions sur ce que j'ai vu, sur ce à quoi j'ai assisté, qui n'était pas filmé, donc je suis la seule personne de France à pouvoir en parler, eh bien, en fait, on m'accuse de prêter allégeance à une puissance étrangère. Donc c'est une accusation très très grave. Hein. C'est de la haute trahison, quasiment. Et ça, je trouve que c'est dérangeant, parce que ça me prête c'est un discrédit par rapport à mes capacités intellectuelles et à mon autonomie politique. Et puis c'est encore une fois cette idée selon laquelle les enfants issus d'immigration, en fait, ne sont
pas tout à fait français, quand
voilà.
même.
Voilà. En fait, ils doivent toujours montrer des gages, et dès lors qu'ils font preuve d'autonomie intellectuelle, eh bien, on les imagine, soumis à une puissance étrangère.
Disons que dès que vous réclamez un peu plus et que vous rasez pas les murs, ça passe plus trop. Ouais.
C'est exactement ça. Bah, c'est un peu ce que dit le livre. Je pense qu'on me prête une forme d'arrogance parce que je ne suis pas dans une posture misérabiliste et en train de quémander la reconnaissance en permanence ou en train d'exprimer une forme de gratitude vis-à-vis de la République. Parce que je pense que s'il y a une gratitude à exprimer, on doit tous l'exprimer, tous et toutes, et pas seulement les enfants issus d'immigration.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n'avez pas à dire un peu plus merci parce que vous êtes noir.
Oui, c'est ça. Je veux dire, je suis allée à l'école de la République comme tout le monde, et je pense que c'est un dû. Mais et si on doit exprimer une reconnaissance, c'est une reconnaissance collective. Il n'y a pas de raison d'être plus reconnaissante parce que parce que nos parents viennent d'ailleurs.
Alors il y a une polémique. Il y a même des gens qui ont demandé à interdire le syndicat UNEF qui avait fait ça. Ce syndicat étudiant a fait quelques réunions, deux ou trois, si je ne me trompe pas, qui étaient réservées aux gens victimes de discrimination, soit noirs, soit femmes. Et donc on a vu ça comme étant une sorte de racisme, un peu le sort de racisme anti-blanc qui reparaît. Quelle est votre position sur ça?
Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'UNEF, effectivement, a commencé à organiser ce type de réunion durant la dernière décennie, d'abord réservée aux femmes, et puis ensuite, ils ont étendu ce principe aux personnes LGBTQIA. Donc,
au départ, le MLF n'était pas ouvert aux hommes, je crois.
Le MLF était en non-mixité stricte. Oui. Et d'ailleurs, elles ont théorisé cette non-mixité dans des revues féministes, en expliquant que cette non-mixité permettait à la parole féminine de se libérer et d'exprimer non seulement... il y avait le principe du groupe de parole, donc d'exprimer leur ressenti par rapport à l'oppression sexiste, mais aussi d'élaborer des stratégies politiques d'émancipation sans la présence d'hommes qui les empêcheraient, en fait, d'exprimer leur point de vue par rapport à la question des violences sexistes ou sexuelles, par exemple. Sur les questions raciales, c'est la même chose en réalité. Et donc, tant que l'UNEF avait organisé des réunions réservées aux femmes, il n'y a pas eu de polémique en réalité. C'est sur la question de la non-mixité raciale. Et donc, ce sont des réunions qui sont réservées à toutes les personnes susceptibles d'avoir vécu le racisme à titre personnel. Donc, non seulement les personnes noires, mais aussi les personnes asiatiques, roms, d'origine maghrébine. Donc, c'est assez vaste finalement. Et il n'y a pas de contrôle à l'entrée. C'est-à-dire que toute personne se sentant concernée peut venir. En réalité, on ne demande pas aux gens s'ils sont blancs et s'ils veulent venir. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une question de décence. Si, par exemple, demain, un groupe de parole réservé aux femmes lesbiennes est organisé, moi qui ne suis pas lesbienne, je ne vais pas imposer ma présence. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement voyeuriste à vouloir participer à une réunion dont les thèmes ne nous concernent pas, et quelque chose d'indécent. C'est-à-dire que moi, je considère que les espaces sont plus facilement accessibles à ce que je suis en tant que personne hétérosexuelle. Donc, j'ai des facilités, en fait, à me mouvoir dans un certain nombre d'espaces et à exprimer tout ce qui relève, en fait, de mon hétérosexualité parce qu'elle est considérée comme étant la norme. Donc, je ne vais pas m'imposer, sous prétexte de ma liberté d'hétérosexuelle, à aller dans des espaces alors que ce sont des personnes qui ont un temps de parole extrêmement réduit. Donc, pour l'UNEF, je trouve que c'est un renversement du rapport de force que de dire que les Blancs sont interdits. En réalité, les Blancs peuvent s'investir dans l'antiracisme partout. Il y a des manifestations publiques, des organisations qui sont ouvertes partout. Et bizarrement, ces organisations, les collectifs qui sont organisés, l'association des jeunes chinois de France, le conseil représentatif des associations noires, et ben, étrangement, ce sont des organisations qui sont ouvertes à tout le monde, mais comme par hasard, ce sont des Asiatiques qui vont à l'association des jeunes chinois de France, et le CRAN, ce sont essentiellement des Noirs qui se sentent concernés. Donc, pour moi, c'est une fausse polémique, et demander la dissolution de l'UNEF, c'est vraiment excessif.
En plus, deux, trois réunions qui ont été...
Il y en a deux par an, aucune décision stratégique n'est prise dans le cadre de ces réunions.
Et ce que vous dites aussi, il faut le mettre en avant, c'est que lorsque l'UNEF a fait ça pour les femmes, ça posait pas de problème, on trouvait ça, c'était la tradition finalement.
Absolument.
Du MLF, bien effectivement, sûr. Si on doit exprimer son ressenti par rapport à une discrimination, une oppression, il vaut mieux que celui qui peut faire partie des oppresseurs ne soit pas là. Il n'y a pas de gros buveurs chez les alcooliques anonymes, effectivement, et dès que c'est, grosso modo, ça va pour les femmes, mais si c'est les Noirs, les Arabes, ça passe plus, quoi.
Absolument. En plus, ça a été initié en 2017, et il se trouve qu'à l'époque, la présidente de l'UNEF était une jeune femme blanche. Et Mélanie Luce, aujourd'hui, elle se présente comme étant une femme racisée. Et la polémique est intervenue à partir du moment... C'est la première femme racisée à avoir été présidente de l'UNEF. Et je trouve ça curieux que la polémique intervienne au moment où elle devient présidente, parce qu'il y a quand même un soupçon qui est portée sur elle, qu'il n'y avait pas sur les anciens présidents et les anciennes présidentes. Et c'est vrai que cette question de la non-mixité, par exemple, il y avait un festival de cinéma lesbien à Paris, qui était subventionné par la mairie de Paris, et qui n'était réservé qu'aux femmes, c'est-à-dire que les projections étaient réservées uniquement aux femmes. Et là, on n'a pas vu de protestation, alors que c'était des financements publics, on n'a pas vu de protestation, parce qu'on comprend bien qu'il y a peut-être un danger à exposer des femmes qui ont une sexualité minoritaire à peut-être des personnes qui seraient homophobes et sexistes. Donc là, on n'a pas eu de polémique, c'est passé de manière tout à fait sereine, en fait. Et cette même Anne Hidalgo, qui a pu financer ce genre d'initiative, avait déjà voulu porter plainte lorsque le festival Nyan Sapo, un festival afro-féministe, avait voulu réserver des espaces de parole aux femmes noires. Et ce que je trouvais intéressant lors de cette polémique, c'est que c'est devenu le festival contre les blancs. Sauf que les hommes noirs ne sont pas des femmes noires. Les Asiatiques ne sont pas des femmes noires, les Arabes ne sont pas des femmes noires. Et la polémique s'est concentrée sur les personnes blanches. Donc on voit bien qu'en fait, ce qui est problématique, c'est pas que des hommes noirs n'accèdent pas à certains espaces, pas que des Arabes n'acceptent pas certains espaces, mais c'est parce qu'on estime que la présence des personnes blanches est tellement centrale et indispensable que c'est inconcevable que des personnes blanches puissent ne pas être bienvenues dans des espaces où les questions ne les concernent pas. Et moi, j'avais trouvé ça très, très instructif.
Oui, effectivement. Alors, polémique aussi sur l'intersectionnalité, sur ce type de combat où, là aussi, on accuse de vouloir mettre les gens dans des cases, les isoler, etc. Quelle est votre position sur cette nouvelle polémique ?
Alors, l'intersectionnalité, c'est le contraire, justement, du fait de vouloir séparer les gens. En fait, l'intersectionnalité, déjà, il faut savoir que c'est un outil. C'est un outil juridique. C'est une juriste qui s'appelle Kimberlé Crenshaw qui l'a conçue en 1989 pour expliquer qu'il y a certaines personnes qui étaient victimes de plusieurs oppressions de manière simultanée. Elle avait pris l'exemple d'une femme qui avait été discriminée dans une entreprise, une femme noire qui avait été discriminée dans une entreprise et qui n'arrivait pas à faire prouver le fait qu'elle avait été discriminée. L'entreprise invoquait le fait qu'il y avait des noirs et des femmes dans l'entreprise, donc elle ne pouvait pas être discriminée. Sauf que quand on regardait les choses de plus près, il y avait effectivement des noirs, mais c'était des hommes qui étaient tous des ouvriers et il y avait effectivement des femmes, mais toutes les femmes étaient blanches et étaient recrutées pour des travaux d'assistanat ou de secrétariat. Il n'y avait pas de femmes noires, parce que la condition spécifique de femmes noires ne correspondait pas à la division à la fois sexuelle et raciale du travail dans l'entreprise. Et c'est pas en tant que noire ou en tant que femme qu'elle a été discriminée, mais spécifiquement en tant que femme noire.
C'est qu'il y a un cumul des discriminations.
Absolument. Et donc c'est un cumul qui peut parfois, dans d'autres circonstances, être favorable. Par exemple, dans les boîtes de nuit, des hommes noirs et maghrébins sont refusés. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour entrer en boîte de nuit, parce qu'il y a un préjugé exotisant qui permet aux, entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément positif, mais aux femmes d'origine maghrébine, aux femmes noires, d'être plus bienvenues, dans certains espaces. On peut le voir dans les gouvernements, il y a énormément de femmes d'origine maghrébine ou de femmes noires, là où les hommes noirs et maghrébins sont beaucoup moins visibles. Et donc l'intersection, c'est en fait le croisement des oppressions qui produit une oppression différente. Donc ça peut être une addition, ça peut l'aggraver, ou ça peut l'alléger, mais ça produit quelque chose de différent. Et donc, il y a évidemment la question raciale et la question du genre, mais il peut y avoir une intersection entre la question du handicap et la question du genre, la question de l'orientation sexuelle. Donc une femme lesbienne, une femme juive, une femme musulmane vivent des oppressions différentes, par exemple, que des femmes qui vont être tout simplement des femmes blanches, des femmes bourgeoises. Et la question de la classe, évidemment, intervient. Il y a des gens qui cumulent, par exemple, ce qui se passe actuellement avec les grévistes de l'hôtel Iris Batignolles.
On n'est pas encore un complexe hôtelier, mais bon.
Et je pense que vous traiteriez bien vos employés si c'était le cas. Donc l'hôtel Ibis, qui est situé au Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, il y a des femmes qui font grève depuis presque deux ans, hein, un an et demi, l'été 2019, contre leurs conditions de travail parce qu'elles sont externalisées. Il se trouve que ce sont toutes des femmes noires, et en plus des femmes noires africaines, donc migrantes. Il y a la question de la classe qui est là, la question raciale, puisqu'elles sont toutes noires, et la question du statut juridique, du statut administratif. Et là, on est dans une intersection, parce qu'il y a des métiers où les femmes noires africaines sont surreprésentées, et notamment les métiers de ménage, les métiers domestiques. Et bizarrement, moi, étrangement, je ne vois pas la gauche, en fait, sur cette question-là. Il y a une vraie question de classe, là. Ce sont des femmes qui se mobilisent depuis un an et demi pour protester contre leurs conditions de travail, et je trouve que la gauche est très absente, aussi bien la gauche que les mouvements féministes.
Vous travaillez en fait sur ces questions-là depuis 2005, vous avez créé Les Indivisibles avec les Yabon Awards qui était un franc moment de rigolade. Depuis le temps, est-ce que vous avez l'impression que les choses progressent, qu'elles restent difficiles ou qu'elles régressent ?
Alors, je dirais que le contexte et notamment la parole s'est extrêmement durci. La parole raciste s'est extrêmement durcie et s'exprime vraiment avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de complaisance qu'auparavant. Mais pour moi, c'est le témoignage d'une peur. C'est-à-dire que si cette parole s'est radicalisée, c'est qu'elle fait écho à une peur par rapport à l'émergence d'une parole qui n'existait pas auparavant. Et là où je suis optimiste, c'est que je constate que dans les jeunes générations notamment, il y a une compréhension des phénomènes d'oppression qui est beaucoup plus claire. La question du féminisme, c'était pas du tout un sujet, moi, quand je me suis engagée. Moi, j'ai commencé à m'engager dans le féminisme au début des années 2000. C'était un sujet qui, pour ma génération, n'était pas du tout considéré comme un sujet majeur. Au contraire, moi, j'ai vraiment été dans une génération qui avait le sentiment que tout lui avait été accordé, qu'il n'y avait plus de combat à mener. Alors que, pardon, aujourd'hui, dans les jeunes générations, on sent quand même qu'il y a vraiment une question, la question des violences sexistes, la question des violences sexuelles, la question du consentement et du témoignage, c'est une question qui est revenue sur le devant de la scène, et on a y compris des personnalités très très importantes, comme Beyoncé, qui même avant MeToo avait fait du féminisme un des thèmes porteurs dans ses textes, et y compris dans ses concerts. Alors que les stars d'avant ne le faisaient pas nécessairement. Mmh. Y compris quand elles étaient féministes, comme Madonna. Mmh. C'est pas quelqu'un qui verbalisait le féminisme comme des femmes d'aujourd'hui peuvent le verbaliser comme quelque chose d'important. Et c'est pareil pour la question du racisme. Les manifestations contre les violences policières qui ont eu lieu en juin 2020 sont historiques. On n'a jamais vu autant de personnes, et notamment de jeunes personnes, de primo-manifestants, aller dans la rue pour protester contre le racisme systémique. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une avancée dans le débat public, c'est que les gens qui protestent, qui ont des discours racistes, protestent contre des gens qui ont la parole, et qui ne l'avaient pas auparavant.
Donc c'est une sorte de réaction par rapport à un progrès.
Tout à fait. C'est vraiment la réaction au sens vraiment premier du terme contre le féminisme, la brutalité à laquelle peut faire face une femme comme Alice Coffin. C'est une brutalité qui s'exprime contre un discours qu'on n'entendait pas dans les sphères publiques. Et je trouve que c'est un progrès parce que c'est assez drôle, mais finalement, Alice Coffin est publiée chez Grasset, comme Pascal Bruckner, et son livre a beaucoup mieux marché. Donc pour moi, c'est juste symptomatique d'une personne qui pleure sur son sort, dont il a l'impression que c'est un sort d'opprimé, alors que ce n'est pas vrai, et une personne qui, au contraire, a un discours inclusif, un discours, justement, qui va de l'avant et qui fonctionne très très bien, en fait.
Merci, Roguel Diallo. Je renvoie à votre livre qui vient de sortir en poche. N'en reste pas à ta place. Bah, vous avez pris la place qui vous convient. Merci,
Roguel. Merci à vous. Merci.